Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Il est 6h11, bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur RMC et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. On va passer une bonne partie de cette matinée ensemble, plus précisément jusqu'à 9h. Alors habituellement on est là jusqu'à 10h, mais vous le savez, le rugby prendra place tout à l'heure à 9h sur RMC avec la Coupe du Monde qui se déroule au Japon. Donc pas de rendez-vous numérique, même si Raphaël Grabi sera avec nous tout à l'heure dans notre rendez-vous Forme Santé, parce qu'on va évoquer en fait ces applis qui vous, nous permettent de mieux manger. Vous savez qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'applications qui vous permettent de connaître en fait l'intérêt nutritionnel de tel ou tel produit. On évoquera aussi le Nutri-Score avec Christian Ricciard et le fameux IMC, vous savez, l'indice de masse corporelle. Et Raphaël Grabi sera là en renfort pour évoquer la technologie au service de la nutrition. Dans notre rendez-vous maison avec Christian Pessé, on évoquera l'eau dans la salle de bain. Comment économiser l'eau, la chauffer, l'utiliser confortablement. Et puis on restera dans la salle de bain aussi pour bien choisir son chauffe-serviette. Et oui, c'est pas anodin. Christian nous donnera quelques petits conseils. Et puis pour débuter, vous le savez, ce week-end des experts, il est toujours à mes côtés entre 6h et 7h sur RMC. C'est Patrick Mulan et c'est le jardin. Bonjour Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous. C'est très très bienvenue au jardin qui est bien content de tout le lot qui est tombé ces derniers temps.
Ah oui, voilà. il était temps, hein, ça c'est clair. Il y a eu de l'eau, il y a eu du vent, enfin voilà quoi, ça y est, petit à petit, l'automne s'installe.
Oui.
Bah écoutez, voilà, hein, c'est normal, hein, c'est la période. Tiens, si vous avez des questions sur ce sujet, tiens, sur l'automne de votre jardin, n'hésitez pas, le 32-16 est là, 32-16. Le standard RMC, l'appli RMC Direct Studio. À tout moment, vous pouvez nous appeler pour nous laisser un petit message. Voilà, Patrick est là pour répondre à toutes vos questions. Au menu, tout à l'heure, on va évoquer les alternatives au gazon, parce que c'est vrai qu'avec les problèmes climatiques de cette année, on se dit, bah tiens, les gazons se transforment en paillassons. Est-ce qu'il existe des alternatives ?
Alors déjà, est-ce qu'il y a des graminées de gazon qui sont plus résistantes au sec que d'autres ? Est-ce que l'on peut remplacer le gazon par d'autres plantes ? Pourquoi pas ? Je voudrais quand même dire à tous les prêcheurs d'apocalypse quand même que, ben voilà, on n'est pas dans le désert, et que même si on a eu un déficit hydrique assez important depuis le printemps, eh bien l'automne est là, et que l'exposition particulière de notre pays face notamment à l'océan Atlantique fait que de toute façon on reçoit des quantités de précipitations qui globalement finissent par s'équilibrer. Donc ok, on est dans des mouvances, elles sont compliquées, mais il ne faut pas non plus penser que demain nous serons au Sahara. Et voilà,
donc on en parlera tout à l'heure. Et donc sous le prisme des alternatives au gazon, on retrouvera aussi vos coups de cœur de la semaine, la météo du jardinier. Ah, Patrick, vous avez un petit peu exploré les cartes de Météo France pour les jours qui viennent.
Automne et humidité.
Eh bien voilà. Et comme je le disais, vos questions jardin au 32-16 ou bien via l'appli RMC Direct Studio. Bienvenue sur RMC pour ce week-end des experts. Et avant de retrouver le conseil de Patrick Mulan, on va évoquer la plantation des bulbes, parce que ça y est, c'est le moment. Avant tout cela, on accueille Bernard sur RMC. Bonjour Bernard.
Bonjour Patrick, bonjour François.
Bienvenue Bernard. Et on vous écoute.
Donc voilà, j'habite en périphérie de Tours, d'un pavillon individuel, j'ai environ 4-500 mètres carrés de pelouse, avec l'été très chaud, mon gazon est devenu par endroits comme un peu un paillasson. J'ai des touffes vertes, des touffes plus jaunies. Alors, le savoir, quels conseils prodiguer, faut-il scarifier, et comment ressemer sur le genre de pelouse abîmée?
Alors vous anticipez un peu le sujet.
Alors on évoquera ce sujet, c'est en introduction un petit peu. Là.
Ouais. En réalité, bon, j'ai vu les photos que vous avez envoyées.
Oui.
C'est pas très chouette parce qu'on voit bien effectivement une partie importante qui est jaune et d'autres qui sont vertes. Et ça explique une chose très très importante, c'est que le gazon s'est fait d'un mélange de différentes espèces de graminées, dont certaines résistent correctement aux températures importante que l'on a eue et à la sécheresse, et d'autres pas du tout. Et dans votre cas, je dirais malheureusement, c'est que la proportion de graminées qui n'ont pas résisté est très importante. Alors, moi je vais vous donner deux options.
Oui.
La première, c'est de se dire
de tout brûler.
Non, justement, on peut regarder ça comme ça avec un peu d'optimisme en disant bon, tout compte fait, on arrive en mauvaise saison, l'hiver, on va rien faire sur la pelouse, bon, elle est moche, on s'en fiche, on va voir ce que ça va donner au printemps. Parce qu'en fait, il faut le temps que les racines, que l'ensemble, disons, de toute la partie vitale de chaque graminée puisse se reconstituer avec les pluies qu'on a maintenant. Donc, si au printemps, on va dire vers la fin avril, tout n'a pas reverdi, là, vous serez obligé de refaire votre pelouse parce que la quantité de, justement, de proportion, je disais, de partie morte ou abîmée par rapport à la partie verte est trop importante pour faire simplement un sursemis. Ce qu'on fait la plupart du temps, quand on n'a que quelques petites taches jaunasses comme ça, on va gratouiller. Alors on peut faire une scarification, mais le mieux c'est quand même de bien enlever toutes les parties qui sont desséchées, atteindre la terre, gratter cette terre, tasser un petit peu et mettre du gazon de regarnissage qui est généralement du régras, même si le régras n'est pas la plante la plus résistante à la chaleur. Ça, c'est le problème, mais c'est celle qui s'implante le plus rapidement. Vous verrez tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, lorsqu'on parlera justement des plantes de remplacement, il y a des graminées très résistantes à la sécheresse, mais elles ont le défaut de s'implanter lentement. Et la deuxième solution, bah, c'est de se dire, oui, de toute façon, c'est moche, ma pelouse, elle est ratée en ce moment, je la refais. Mais on est un peu tard. On est un petit peu tard, alors ce qu'on peut faire, et ça c'est toujours une bonne chose, c'est de commencer la préparation du sol pour profiter justement des précipitations automnales, de la fraîcheur hivernale, pour que tout ça, ça pénètre bien dans le sol, que les amendements que vous pourriez faire au moment où vous allez retourner la terre, etc., puissent apporter un aspect bénéfique. Moi je me dis que c'est un petit peu prématuré, donc voilà.
Et quel engrais mettre sur ce sur les pelouses, sur les endroits qui sont verts?
Il existe des engrais de gazon pour l'automne. Parce que ce que l'on cherche en ce moment, ce n'est pas à provoquer la croissance du gazon, mais c'est au contraire à renforcer la solidité au niveau notamment racinaire. Et vous allez avoir des engrais qui sont faiblement dosés en azote et qui sont relativement bien consistants, notamment en potasse. Donc ça, c'est des choses que l'on peut faire maintenant, effectivement. Mais sur la pelouse, dans l'état où elle est, ce que je vois maintenant, moi, j'y ferais à rien du tout. Hein.
D'accord.
Non, parce que ça, je vois pas trop l'intérêt d'apporter un engrais sur une pelouse qui a, on va dire, 60 ou 70% de chances d'avoir besoin d'être refaite au printemps.
Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie de vos conseils.
Voilà. Bah, écoutez, bonne journée, bon courage.
Merci Patrick. Bonne journée. Au revoir.
Merci Bernard. Et si tout comme Bernard, vous voulez joindre Patrick Mulan, c'est le moment ou jamais. 32-16, la Pierre MC Direct Studio. On est en direct et vous pouvez à tout moment poser votre question.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC. L'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Savez-vous planter les bulbes? Voilà. À la mode de... Non, on va pas faire ça comme
ça. Ah si, vous pouvez le faire.
On peut le faire.
Il y a la mode hollandaise, par exemple.
À la mode hollandaise, bah, d'accord.
Si vous voulez me poser la question, je vous répondrai.
D'accord. Patrick, on va parler des bulbes. Donc, quelle est la bonne période pour procéder à la plantation des bulbes à floraison printanière?
Ben voyez, dites donc. J'ai bien choisi le
sujet. On est bon là, hein ?
On est bon.
Ça y est, il faut y aller.
On est même ultra bon, parce que on va dire que la mi-octobre, c'est le pic de la saison de plantation. Mais si vous n'avez pas encore tout à fait le temps, vu aussi les conditions, notamment pour la moitié sud de la France pour la semaine prochaine, qui sont très très humides, vous pouvez attendre encore. On a jusqu'au début décembre, on va dire. Mais en revanche, je vous conseille d'aller les acheter rapidement, parce que vous avez le choix là actuellement. Il y a le maximum d'offres. Bon, plus vous retarderez...
Et oui, moins on aura le choix.
Bah, c'est-à-dire que les très jolies variétés, les plantes un petit peu qui sortent de l'ordinaire... Oui. Bon, si vous voulez de la tulipe rouge ou du narcisse jaune, ça vous en aurez. Mais si vous voulez sortir un petit peu des sentiers battus, il vaut mieux y aller maintenant dans la jardinerie. Oui.
Alors, on va commencer par le sol, Patrick. Dans quelle terre planter des bulbes?
Alors, les bulbes, c'est pas très très compliqué. Ça a besoin tout simplement d'un sol filtrant. Parce que comme un bulbe, vous savez, c'est un organe de réserve, s'il y a trop d'humidité, eh bien comme c'est charnu, ça pourrit facilement. Donc il faut un sol qui soit assez sableux. Si vous n'avez pas de sol sableux, mon petit conseil, c'est que vous prenez un seau à sable avec du sable, un seau avec du sable dedans. Et vous mettez une petite cuillère, enfin une petite pelletée
de sable
au fond de chaque trou.
D'accord.
Et oui.
Est-ce qu'une exposition particulière est exigée pour réussir les bulbes à fleurs ?
Alors bien sûr, ils aiment bien avoir un peu de soleil, mais il faut savoir que à partir de maintenant, jusqu'au moment de la floraison, on va dans une grande majorité de la partie du jardin être sans feuilles. Donc de toute façon, les zones qui sont généralement ombragées du jardin vont recevoir du soleil, donc vous pouvez en planter partout. Il n'y a vraiment, vraiment que sous les gros conifères que ça fonctionne pas.
D'accord. Et faut-il prévoir une préparation particulière du sol quand on plante ?
Alors surtout le désherbage, évidemment. Ouais. La concurrence entre des herbes sauvages et les bulbes, c'est pas très très bon. Et puis surtout aussi un épierrage, parce que les pierres, ça peut abîmer un peu les bulbes, donc ça aime pas trop. Et puis, alors oui, j'ai oublié un truc, parce que c'était à l'inverse. Surtout, vous ne mettez pas de fumier. Parce que la matière organique non décomposée provoque la pourriture des bulbes.
D'accord. On ne sait pas toujours bien dans quel sens planter les bulbes, Patrick. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit conseil ?
Alors, c'est facile sur les oignons de tulipe, par exemple, puisqu'en fait, il y a une partie plate, donc qui est le réceptacle que l'on pose sur le sol, et puis vous avez la pointe en haut. En revanche, il y a des bulbes qui sont un peu bizarres, ils sont tout tordus, etc. Bah, ceux-là, vous les mettez plutôt de côté, vous les mettez comme vous pouvez. De toute façon, ça reviendra. Même si vous mettez un narcisse, par exemple, ça pourrait le faire, parce que le narcisse, c'est vraiment très pointu. On voit bien quel est le sens. Mais si vous le mettez à l'envers, en fait, il se passerait la chose suivante, c'est que le germe, enfin la petite tige, va descendre puis remonter. Donc le seul problème que ça fait, ça ralentit tout simplement le développement de la plante.
Y a-t-il une profondeur de plantation qu'il faut respecter ?
Ah oui, oui. Alors d'une manière générale, on dit environ deux fois la hauteur du bulbe. C'est-à-dire qu'il faut que le bulbe soit au moins couvert de sa propre hauteur. Quand on prend une tulipe, par exemple, on va la planter autour de 15 cm de profondeur. Ça fait un bulbe de tulipe, oui, ça mesure 6-7 cm de haut. Bon, les narcisses qui peuvent être grands, on peut planter jusqu'à 20 cm. En revanche, tout qui est tout petit, on va faire un tout petit trou de 5-7 cm de profondeur. Donc pensez à ça, simplement, ça vous donne un peu l'idée.
Est-ce que l'on doit bien respecter les bulbes les uns des autres ?
Les espacés, bah évidemment. Alors, mais pas trop. Moi, ce que je trouve qui est moche dans les jardins, c'est que souvent, on met des tulipes tous les 30-40 cm. Alors, vous avez une tulipe comme ça qui se balade, ça veut strictement rien dire. Si vous avez, dans l'idée, l'image d'Épinal du fameux jardin de Keukenhof qu'on voit en Hollande avec ses massifs magnifiques, eh bien, ils sont plantés serrés. Donc ça veut dire que tous les petits bulbes style crocus, style personnage, etc., vous allez les planter à environ un doigt seulement. Votre doigt, là, vous le mettez comme ça entre deux bulbes, ça vous fait la largeur. Bon, pour les bulbes de taille moyenne, vous allez mettre deux doigts. Pour une tulipe, vous allez mettre jusqu'à une main, mais c'est le maximum. Une tulipe ou un gros narcisse. Donc il faut assez les serrer. Bien sûr, ça va vous coûter relativement cher, parce que c'est pas donné, les bulbes.
Patrick, juste dernière question, très rapidement. Est-ce que je peux planter des bulbes à la maison, à l'intérieur ?
Oui, dans la maison, on peut.
Ouais, ça marche aussi ?
Alors, surtout sur les jacinthes et surtout sur les narcisses. Et ça, vous pouvez faire ce qu'on appelle du forçage. Alors, l'idée, c'est d'abord, vous allez les mettre au frigo pendant environ une quinzaine de jours, trois semaines, dans le bac à légumes du réfrigérateur. Il faut qu'ils aient eu un petit peu froid. En fait, ce que vous faites une sorte de semblant d'hiver. Mmh. Et après, vous allez les mettre en pot et très rapidement, ça va pousser. Mais il faut aussi les mettre dans le noir de manière à ce que les feuilles montent pas trop haut et que, au contraire, la hampe florale sorte des feuilles. Sans là, on a souvent des jacinthes, vous savez, elles restent au creux du feuillage, c'est pas très joli.
Patrick, on revient dans un instant après la météo. On poursuivra ce rendez-vous jardin. Vos questions, 32-16, l'appli RMC Direct Studio et on évoquera les alternatives au gazon. A tout de suite.
RMC, 6h-7h. Votre jardin, François Sorel,
Patrick Mulan.
Attention.
Enfin la tondeuse à gazon a cassé. Ferons-nous la sieste tranquille. Mais non, son gros chien est toujours aux aguets. Ne va pas cesser d'aboyer. les motos qui passent en pétard.
Écoutez, voilà, moi j'y suis pour rien, Patrick. Vous me regardez avec de gros yeux en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est Paul, notre réalisateur, qui de temps en temps a des envolées comme ça, de créativité, et va trouver des chansons que même les auteurs ne se souviennent pas. En fait, c'est ça qui est terrible. Alors, on va évoquer maintenant donc les alternatives au gazon. Patrick, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. C'est vrai qu'avec les problèmes, les derniers problèmes climatiques de cette année, enfin de ces dernières années, on peut se dire, ben voilà, tiens, les pelouses qui sont transformées en paillassons, est-ce qu'on peut les récupérer et quelles sont les autres possibilités en fait ?
Ben, c'est-à-dire qu'on a eu une sécheresse assez importante et c'est surtout la troisième année où on a des étés secs et assez chauds, et ce qui fait que ça a fait quand même une pression environnementale forte et notamment sur les gazons, parce que on rêve tous plus ou moins d'une pelouse à l'anglaise. Je vous rappelle quand même que les îles britanniques, elles sont soumises à une influence maritime très forte, avec une humidité qui est le premier élément moteur de l'obtention d'un bon gazon. Après, effectivement, il y a toute une technique derrière ça, mais quand même, vous avez toujours des plus belles pelouses, on va dire, au nord ou à l'ouest que au sud, et c'est normal.
Patrick, les pelouses paillassons, est-ce qu'elles sont récupérables et comment on peut faire ?
Alors,
donc comme ces pelouses qui ressemblent à du foin, quoi. Ça.
Paillassons, elles sont devenues, exactement, toutes jaunes, moches, etc. Bon, on peut dire, comme je l'ai déjà dit avec notre auditeur du début de l'émission, qu'il n'y a pas forcément péril à 100%. On a reçu une quantité d'eau assez sympathique depuis le début de l'automne. Ça va continuer. Laissons passer l'automne, laissons passer l'hiver, attendons la repousse, parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'élément moteur de croissance sur le gazon. Donc, il est certain, j'allais dire probable, mais il est certain qu'une partie des pelouses qui ont subi la sécheresse de cet été ne redémarreront pas. D'ailleurs, vous pouvez vous dire une chose. Si vous avez passé tout l'été sans mettre une goutte d'eau sur votre gazon, il est fort probable
que
ça va être compliqué. Voilà. Mais si vous avez un peu arrosé, etc., bon, il est moche et tout, vous pouvez quand même lui redonner encore une chance.
Parmi les plantes qui composent le gazon, est-ce qu'il y en a certaines qu'on peut privilégier dans la perspective, justement, de nouvelles saisons avec pas beaucoup d'eau ?
Alors, François, je pense que c'est la question clé.
Et bien sûr.
Très importante, parce que d'habitude, on ne regarde pas les compositions de gazon. Quand vous achetez un paquet de graines de gazon, vous achetez gazon pour ornement, pour sport et jeu, pour agrément, etc., pour jardin méditerranéen, mais vous ne regardez pas de quoi est fait ce gazon. Or, la composition est obligatoire et vous avez une étiquette sur le paquet qui vous donne les espèces, parce que je rappelle que le gazon est le mélange des différentes espèces de graminées qui vont vous donner, au final, la pelouse. Alors, regardez s'il y a de la fétuque rouge semi-traçante. Ça, c'est très important, ainsi que du pâturin des prés. Ce sont sans doute les deux espèces les plus résistantes à la chaleur et à la sécheresse. Je parle là de gazon classique, qui ont une résistance peut-être moyenne au piétinement, enfin correcte, donc il ne faut pas en faire des stades de foot, mais qui ont la difficulté de ne pas s'installer rapidement. Pour qu'une pelouse qui est principalement constituée de fétuque rouge semi-traçante et de pâturin des prés soit belle, il faut attendre pratiquement un an. C'est pourquoi on ajoute aussi du raie gras qui peut avoir une durée de vie plus courte et qui peut disparaître une fois que le reste est installé.
Quelles sont les graminées à gazon qui craignent justement la chaleur et la sécheresse ?
Alors, celle qui craint le plus la chaleur et la sécheresse, c'est la plus fine, c'est celle que l'on utilise sur les greens de golf et qui s'appelle l'agrostide. Ça, cette agrostide, vraiment, c'est la finesse idéal, mais c'est la graminée la plus sensible. Et puis le raie gras anglais dont je parlais précédemment, qui lui est sensible à la chaleur au point de se mettre en dormance souvent pendant toute la période de l'été. Et là, c'est lui qui souvent jaunit principalement. C'est pour ça que je vous disais, laissez une chance, parce qu'il peut redémarrer. Voilà, parce qu'il reverdit facilement.
Est-ce qu'il existe une plante, un peu passe-partout, hein, qui serait quand même résistante et qui fera un bon gazon ?
Alors, il y en a une qui est pas mal, mais de toute façon, on la trouve pas toute seule. Ou du moins, ça va pas faire un joli gazon si on la met toute seule. Ça s'appelle la fétuque élevée, celle-là. Alors, c'est très, très résistant à tout. En fait, bon, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse sec, tout ça, ça marche. Ça se piétine très, très bien. Là, vous pouvez vraiment marcher dessus tant que vous voulez. Ça dure très longtemps. Mais en revanche, si vous ne faites pas une préparation du sol hyper soignée, ouais, surtout si vous ne retirez pas toutes les herbes qui pourraient la concurrencer, eh bien, elle ne s'implantera pas. C'est pourquoi on ne la trouve jamais toute seule dans un gazon.
Alors à l'inverse, Patrick, quels sont les graminées à gazon qui craignent la chaleur et la sécheresse ?
Bah c'est celle dont qu'il faut éviter, parler. En fait. C'est celle qui craint la chaleur et la sécheresse, on vient d'en parler, c'est la moustide et le régrand anglais.
D'accord. Et est-ce qu'il n'existerait pas une plante un peu, on l'a dit aussi, passe-partout, voilà, qu'on a évoqué il y a un instant. Parlez-nous du kikuyu, tiens. Qu'est-ce que c'est le kikuyu ?
Alors, le kikuyu, c'est une graminée qui s'appelle Penicetum clandestinum. Bon, c'est une plante que l'on voit essentiellement dans les pays tropicaux. C'est très résistant, très très résistant à la chaleur, mais ça a un défaut, ça n'aime pas trop la sécheresse. Donc quand vous faites des grandes belles pelouses au bord des pelouses dans les grandes villas de la Côte d'Azur qui restent vertes tout le temps, souvent c'est du kikuyu, mais on les arrose. En revanche, vous avez le faux kikuyu, le Stenotaphrum, qui lui est une plante qui n'aime pas trop la fraîcheur, moins 5 degrés, il commence à jaunir un peu, mais qui est résistant au piétinement, à la sécheresse, à la chaleur, qui pousse vite, etc. Donc ça, c'est vraiment l'idéal presque pour les zones de l'autre côté de la Méditerranée. De même que le gazon des mascareignes, de même que le chien d'ampel pied de poule, qu'on appelle aussi l'herbe des Bermudes. Alors, c'est des plantes qui sont beaucoup plus larges, beaucoup moins fines que nos gazons habituels, mais qui, dans les régions les plus exposées à la chaleur, donnent des bons résultats. Et on les voit maintenant de plus en plus proposées dans le commerce.
Voilà pour le gazon. Il est 6h38, c'est RMC. Patrick, il est temps de retrouver maintenant notre météo du jardinier. En ce 19 octobre 2019, vous avez jeté un petit coup d'œil sur les cartes de Météo France. Pour les jours qui viennent, est-ce qu'on a des précautions particulières, nous jardiniers ?
Bah alors, on va dire que les jardiniers du Sud vont rester bien à l'abri, tranquille à la maison, à regarder la pluie tomber, qui est tout à fait attendue et qui va faire le plus grand bien. Dans la partie, disons, moitié au-dessus de la Loire, on va avoir l'opportunité de jardiner correctement. On aura de temps en temps des petites entrées de pluie, mais ça sera beaucoup moins dense et beaucoup moins régulier que dans la partie, alors pas que méditerranéenne, parce qu'on aura surtout, on va dire, toutes les Pyrénées, toute la frange méditerranéenne, le Rhône-Alpes, qui eux vont être vraiment soumis aux pluies cette semaine, enfin la semaine prochaine. Alors attention, les indices de Météo France sont à 3 seulement.
D'accord.
Donc ça ne veut pas dire forcément
oui, que c'est
du rubis sur l'ongle. Mais on va avoir quand même un temps un peu automnal, avec des températures qui peuvent atteindre 6-7 degrés le matin. Donc on a, à partir de mardi, on sentira quand même cet automne. Donc si vous avez des plantes très très frileuses, vous pouvez commencer à les rentrer. Ça restera très doux en revanche sur la Méditerranée. Et après, alors vous rendez compte, mon cher François, que oui, on va avoir en Corse demain 30 à Ajaccio.
Non, c'est dingue.
Mais après ça va diminuer, et on aura toujours 24-26 degrés.
Ouais, ce qui est pas
alors
mal, hein.
On aura du mal parfois à atteindre les 20 degrés sur le continent. Mmh. Donc on est vraiment, nous, disons les continentaux, dans une période vraiment de l'automne. Côté jardin, vous pouvez vous mettre aux plantations, notamment dans la moitié nord, puisqu'on a reçu pas mal d'eau. Le sol s'est bien ramolli, il est frais et les conditions sont optimales pour planter. Une chose importante, nous sommes en période de récolte, et notamment de récolte des pommes et des poires. Il faut se dépêcher de les récolter, parce que si on continue à être sous d'une influence très très humide, les conservations vont être plus difficiles. Donc il faut récolter, mettre les fruits alors pas entassés, il faut les mettre dans des clayettes, etc., dans un endroit qui soit bien aéré pour qu'ils ne soient pas humides une fois que vous les mettrez en conservation. C'est pas facile toujours d'être un jardinier de verger, parce que les récoltes de fruits que l'on fait maintenant ne donnent pas des fruits consommables immédiatement. Vous avez des pommes et des poires que l'on consommera dans un mois, voire dans deux mois. Donc il faut avoir le local pour les entreposer, et il faut bien vérifier qu'il n'y aura pas d'humidité pour éviter les moisissures, bien entendu.
Patrick, on va revenir dans un instant. Nous écouterons la question d'un auditeur et puis on terminera ce rendez-vous jardin avec votre coup de cœur, vos coups de cœur de cette semaine. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez nous joindre 3216, l'appli RMC Direct Studio. C'est le week-end des experts et c'est le jardin sur RMC. Et c'est exclusivement sur RMC. A tout de suite.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Voilà, 7h moins le quart. Un grand bienvenue à vous qui venez peut-être d'arriver sur RMC. C'est le week-end des experts. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous jardin. À 7h, la météo, les infos. Et ce sera la maison avec Christian Pessé qui me rejoindra. Patrick, Arnaud nous attend au 32-16.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour Arnaud.
Bonjour Arnaud, bienvenue.
Bonjour Patrick, bonjour François. Merci
bienvenue.
D'avoir retenu ma question.
Arnaud de l'Oise.
Ma question est la suivante. J'ai dû abattre un cerisier en 2015, un cerisier qui avait au moins 50-60 ans parce qu'il devenait gênant pour la maison. Et l'automne suivant, j'ai planté un palmier au même endroit. Bon, j'avais quand même réussi à éliminer les plus grosses racines, mais j'avais pas pu retirer complètement la souche. Et mon palmier qui était magnifique, hein, il faisait pas quasiment 2 mètres de haut, il s'est desséché en quelques mois, comme s'il avait été dévitalisé. Et la question que je me pose, c'est est-ce que par hasard, le cerisier, une fois coupé, n'aurait pas relargué de l'acidité dans le sol ? Voilà.
Alors, c'est pas aussi simple que ça. Bon, il est certain que le cerisier en lui-même n'est pas une plante qu'on appelle allélopathique, c'est-à-dire l'allélopathie, c'est la faculté qu'ont certaines plantes d'émettre des substances ou parfois même des volatiles, donc ça peut être dans l'air, pour se protéger. On appelle ça aussi la télétoxie, c'est très connu sur le noyer par exemple, avec la julonne, dont les feuilles ont vraiment une substance qui sert d'herbicide naturel, on va dire. Bon, dans votre cas, le cerisier n'étant plus vivant, c'est plus au cerisier lui-même que vous avez affaire, mais à l'ensemble des bactéries et des champignons qui vont se mettre à décomposer ou travailler à la décomposition de la souche qui, elle, est restée dans le sol.
D'accord.
Et là, il est probable que vous aviez peut-être alors, soit des pathogènes, soit les conditions, on va dire, écologiques dans le sol à proximité de cette souche en décomposition n'était pas bonne du tout. Donc c'est vrai que l'idéal, lorsqu'on détruit un arbre et que l'on veut replanter à la place, c'est d'extraire l'ensemble de la souche et même un maximum de racines, et puis effectivement de changer une partie de la terre. Ça, c'est nécessaire pour obtenir des conditions à peu près correctes. Après, ce qui s'est passé exactement, ça, je ne peux pas vous le décrire vraiment parce qu'on n'en sait rien, mais c'est un ensemble de facteurs qui ont rendu, on va dire, les conditions défavorables pour la croissance de votre palmier. Alors, n'oubliez pas peut-être aussi, parce que ça, je pars sur ce que vous me dites, vous, mais est-ce que le choix de votre palmier était totalement judicieux ? Est-ce que l'emplacement pour ce palmier, vous êtes dans quelle région ?
Je suis plutôt dans la Picardie, mais enfin sud Picardie. Et j'ai d'autres palmiers tout autour qui se portent super bien. Quoi.
Ça veut strictement rien dire, mon cher ami, que dans les jardins, nous sommes tous soumis à des systèmes de microclimat. Il suffit effectivement qu'il y ait une haie ici, qu'il y ait un mur là, pour que les vents soient dirigés autrement, etc., etc. On a vu souvent des plantes simplement séparées par un mur, pousser très bien chez monsieur X et ne pas réussir chez monsieur Y. Donc ça, c'est très très complexe à maîtriser. Non mais je disais ça parce qu'effectivement quand même la Picardie n'est peut-être pas le lieu
l'endroit idéal
pour le palmier. C'était un trachycarpus que vous avez planté ?
Oui, tout à fait.
Bon, ça va encore à peu près. Bon, c'est quand même des palmiers qui nécessitent des sols assez humifères, parce que ce sont des palmiers qui sont origine de Chine, montagnes de Chine. Donc ça aussi, la préparation du sol, etc. Un grand palmier ou un grand arbre, c'est toujours plus difficile à reprendre qu'un petit. Donc vous voyez, il y a plein de conditions que l'on peut évaluer pour essayer de voir quelles ont été les raisons, parce que je pense
les
que
facteurs,
c'est pas une raison, il y en a plein, qui ont fait que votre palmier n'a pas réussi. Mais voilà, c'était une question intéressante, parce que cette idée justement d'amensalisme, de télétoxie, d'allylopathie, qui sont des mots assez similaires, on n'en parle pas suffisamment, alors que c'est très complexe et que ça existe.
Merci Anno pour cet appel. 6h50, c'était RMC. Patrick, on va terminer avec votre coup de cœur, vos coups de cœur, et deux manifestations incontournables pour les jardiniers.
Ah bah incontournable déjà, c'est les journées de Chantilly, là, ça a commencé hier, donc c'est la plus importante fête des plantes de France, il y a plus de 250 exposants, il y a la thématique, ce sont les sans souci, et ça se déroule effectivement face au fameux château du Grand Condé, c'est dans un endroit magique, et ça vaut le coup vraiment d'y aller si vous avez le temps, ou du moins si vous êtes dans la région. Et puis, pour ceux qui se retrouvent plutôt dans l'Eure, donc là on est à l'ouest, on va avoir les automnales d'Harcourt dans le magnifique arboretum bicentenaire de ce domaine-là, une cinquantaine d'exposants, collectionneurs, donc aussi des gens qui sont extrêmement intéressants avec des plantes intéressantes et qui vous donneront des bons conseils. Donc c'est au domaine d'Harcourt dans l'Eure. Et puis deux livres, un vrai coup de cœur pour Hortensia et Hydrangea d'aujourd'hui de Thierry de Riquel chez Ulmer. C'est un très très bon livre d'un pépiniériste qui dirige une pépinière en Belgique. Il est spécialiste des Hydrangea. Il y a énormément de plantes qui vous sont présentées dans ce livre. Mais surtout, il vous présente des obtentions récentes pour pouvoir vous montrer à quel point le genre Hydrangea est important et surtout varié. Bon, c'est un peu catalogue, mais c'est quand même très très intéressant. Et puis, alors si vous débutez, si vous savez rien faire au jardin, vous pouvez commencer avec ce livre-là qui s'appelle Le Guide Larousse du jardinier débutant. Ça vient de la Royal Horticultural Society, donc qui est l'instance internationale du jardinage d'Angleterre et qui a été traduit par Larousse. Et ce livre-là vous propose des sortes de photogestes sur les techniques de base à connaître. Alors il n'y a pas tout, c'est un peu fourre-tout, mais c'est pas si mal fait, et surtout ça prend pas la tête parce que ce sont essentiellement des légendes avec des photos. Donc le guide du Larousse du jardinier débutant, 19,95€, donc en plus c'est pas trop cher et vous pouvez vous mettre au jardinage avec ça.
Patrick, on sera là bien sûr samedi prochain entre 6h et 7h sur RMC.
On fera encore du jardinage. À tous, je vous dis bonne semaine, bon jardinage. Les jardinières, je vous embrasse, ma petite jardinière aussi, comme d'habitude. Et je fais un grand coucou à monsieur Christian.
Et moi, je te fais aussi un grand coucou. Comme ça, on fait des coucou.
Très bien. Ils sont en forme, tous les deux. Christian Pessé dans un.
C'était Nana Mouskouri. Coucou.
Ah oui, mais bon. Nana Mouskouri, Christian, coucou. Ça c'est toute votre époque.
Ouais. Ouais, ça va.
Hein. Ah bah un peu quand même. Christian Pessé dans un instant sur RMC pour notre rendez-vous maison et on va aller du côté de la salle de bain.
Oui, on va réinventer l'eau chaude aujourd'hui.
Ah, ça c'est bien.
On va s'intéresser à la salle de bain. Il y a une grande manifestation qui va venir très bientôt qui est Idéobain, donc pour les professionnels en même temps que Batimat. Et donc on va parler justement d'économie d'eau, de confort de l'eau, parce que tout ça, c'est pas forcément évident.
À tout à l'heure, donc, une heure dédiée à la maison et au bricolage entre 7 et 8. Vos questions, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On est de retour après la météo et les infos. À tout de suite.